Genèse au chapitre 22, versets 1 à 18, au nom de Jésus. Quand Isaac eut grandi, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela et Abraham répondit: Oui, je t'écoute. Dieu reprit: Prends ton fils Isaac, ton fils unique que tu aimes tant. Va dans le pays de Moria, sur une montagne que je t'indiquerai, et là offre-le-moi en sacrifice. Le lendemain, Abraham se leva tôt, il fondit le bois pour le sacrifice, équipa son âne et se mit en route vers le lieu indiqué, et emmenait avec lui deux serviteurs ainsi que son fils Isaac. Le surlendemain, il aperçoit de loin la montagne où il allait. Il dit alors aux deux serviteurs: Restez ici avec l'âne. L'enfant et moi, nous irons là-haut pour adorer Dieu, puis nous reviendrons ici. Abraham chargea sur son fils Isaac le bois du sacrifice, et lui-même portait des braises pour le feu et un couteau. Tandis qu'ils marchaient tous deux ensemble, Isaac s'adressa à son père Abraham. Celui-ci lui répondit: « Oui, je t'écoute, mon fils. « Nous avons le feu et le bois, dit Isaac, mais où est l'agneau pour le sacrifice ?» Abraham répondit: « Mon fils, Dieu veillera lui-même à procurer l'agneau. » Ils continuèrent d'avancer ensemble. Et quand ils arrivèrent au lieu que Dieu lui avait indiqué, Abraham construisit un autel et y déposa le bois. Il lia son fils Isaac et le plaça sur l'autel, par-dessus le bois. Il saisit alors le couteau pour égorger son fils, mais l'ange du Seigneur l'appela du ciel: Abraham, Abraham! Oui, répondit Abraham, je t'écoute. Le Seigneur reprit: Épargne l'enfant, ne lui fais aucun mal, je sais maintenant que tu respectes mon autorité. Et tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Abraham aperçut alors un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla le prendre et l'offrit en sacrifice à la place de son fils. Abraham nomma ce lieu le Seigneur y veillera. C'est pourquoi on dit encore aujourd'hui: sur la montagne le Seigneur y veillera. Du ciel, l'ange du Seigneur appela Abraham une seconde fois et lui dit: Le Seigneur déclare ceci, parce que tu as agi ainsi et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Aussi vrai que je suis Dieu, je jure de te bénir en rendant tes descendants aussi nombreux que les étoiles dans le ciel ou les grains de sable au bord de la mer. Tes descendants s'empareront des cités de leurs ennemis et à travers eux je bénirai toutes les nations de la terre parce que tu as obéi à mes ordres. Amen. Je ne sais pas si vous avez remarqué que le texte que nous avons depuis dimanche passé et aussi celui d'aujourd'hui, je dirais, ce sont des textes très bizarres. Pourquoi ? Parce que je vais faire un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là avec nous la semaine passée. Nous avions parlé de Jésus qui a été chassé par l'Esprit de Dieu pour se faire tenter par le diable dans le désert. À ce moment-là, nous avions dit que ce n'est pas normal ce qui s'est passé. L'Esprit de Dieu qui chasse, qui bouscule le Fils de Dieu à aller dans le désert pour être tenté, ce n'est pas normal. Et aujourd'hui, cela continue toujours. Dieu qui demande à Abraham de donner en sacrifice son fils unique, en d'autres termes, pour dire les choses, de le tuer. Un texte bizarre. Parce qu'il y a des questions logiques qui en découlent, comme par exemple, pourquoi ce Dieu demande-t-il un sacrifice humain? Pourtant, lui-même, il est celui qui dit dans le livre des Lévitiques que c'est une abomination la pratique de sacrifice humain. Or, ici, il demande de tuer le Fils unique? Ça, c'est une première question logique. La deuxième question qui vient, pourquoi Isaac a accepté de se faire ligoter sans faire obstruction à son père? Troisième question, pourquoi Abraham n'a même pas demandé à Dieu de revoir sa décision, de ne pas lui demander ce sacrifice? Pourtant, rappelez-vous, cet enfant était déjà tant attendu. Un enfant qu'il a eu dans la douleur. Il aurait pu dire, mais non Seigneur, pourquoi il n'a même pas négocié? Dans les films, souvent on essaie de changer la réalité biblique comme si Abraham négociait avec Dieu. Non, dans les textes, il n'y avait pas de cela. Donc vous voyez, rien qu'avec ces questions-là, ce texte nous laisse un peu perplexe et peut même nous rendre mal à l'aise. Et notre réaction quand quelqu'un nous pose ces questions-là, moi en tout cas, c'est le réflexe que j'avais avant, nous donnons des réponses très théologiques, bien faites, comme si on a pris par cœur la réponse. Par exemple, oui, parce que Dieu a éprouvé Abraham pour tester sa foi, n'est-ce pas notre réponse classique? Dieu a éprouvé Abraham pour tester sa foi. Ce sont des réponses théologiques. Et aussi, non, ce n'est qu'une préfiguration du sacrifice de Jésus, le Fils unique de Dieu qui s'est donné en sacrifice à la croix. On sent bien dans nos réponses que nous sommes bien rodés à donner des réponses bien faites. Mais essayons quand même de voir de plus près toutes ces réponses toutes faites, un peu comme, je qualifie cela comme une machine ou un distributeur automatique, tac, tac, tout de suite ça sort, tu appuies sur le bouton, voilà la réponse. Si nous disions que Dieu veut tester la foi d'Abraham, supposons que Dieu voulait tester la foi d'Abraham et le mettre à l'épreuve. Bon, d'accord. Déjà, soyons honnêtes avec le texte, n'ajoutons rien dans le texte. Il n'y a aucun élément qui parle de cela dans le texte, mais c'est une vérité que nous avons héritée depuis. Et inconsciemment, nous ne faisons que le répéter au fil des générations. Dieu a testé, a éprouvé son serviteur. Et face à cette réponse toute faite, je reprends une réflexion d'un pasteur à Paris qui s'appelle Jean-Marc Pernaud, qui disait « Comment peut-on penser que Dieu demanderait à son serviteur de commettre un crime, même pour, par amour à lui ?» Ce n'est pas logique, ce n'est pas biblique même, je vais dire plutôt. Et ce qui est encore étonnant, même nous les chrétiens, nous sommes presque tous poussés à dire la même chose pour dire que parce qu'il aime son Dieu plus que son enfant. Et c'était écrit, bien sûr. Je suis d'accord sur le principe qu'il faut aimer Dieu plus que ses enfants, plus que sa famille, mais pas au point de nous demander de commettre un meurtre. Cela ne rentrerait pas dans la logique de la parole de Dieu qui interdit même dans les commandements, tu ne commettras pas de meurtre. Et donc, vous voyez, cette réponse toute faite qui semblait auparavant si évidente pour nous n'est pas du tout biblique, je le dis bien. Et je continue. La deuxième question que nous nous sommes posée, pourquoi Isaac alors a accepté de se faire ligoter sans faire obstruction à son père? Il aurait pu dire, mais non papa, pourquoi tu me demandes ainsi? Mais un enfant obéissant, il a accepté sans aucune plainte. Alors là, la réponse toute faite que nous avons aussi, qui disait, parce que voilà, il est l'image d'un enfant obéissant, c'est trop facile. Mais attendez, c'est un humain, non, comme vous et moi. Je crois que qui que ce soit parmi nous ici, qui vivrait la même situation, supposons qu'on était à la place de ce fils, je suis sûr et certain, je m'enfuirais. Je ferais tout. Donc là, il y a une ombre, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a tout de suite accepté? Ça, c'est une point d'interrogation. Et enfin, la troisième question qu'on s'est posée, pourquoi Abraham n'aurait-il pas plaidoyer devant son Dieu pour que cet enfant soit épargné, un enfant tant désiré. Et la réponse que nous donnons, toute faite, que nous allons tout de suite donner ici, avec une certaine facilité, « Ah, parce qu'Abraham avait la foi, bien sûr. » Et là, c'est flou, ce n'est pas précis. Foi en Dieu, oui, certes, mais la foi a un objet et répond toujours à une question, « J'ai foi en Dieu, oui, mais foi en quoi ?» Il ne faut pas aussi oublier cet aspect-là. D'où vient cette foi d'Abraham alors? Et face à ces trois questions pertinentes, que répondre? Est-ce que ces réponses trop faciles sont suffisantes? Ce qu'il ne faut pas d'abord oublier, les paroles et les promesses de l'Éternel, que l'Éternel avait fait à Abraham avant ce texte, dans Genèse chapitre 13, je ne vais pas tout lire le chapitre, par exemple, quand Dieu avait fait alliance avec Abraham, il lui a promis des terres et des descendants innombrables. La promesse était déjà faite avant. Ce qui signifie que la promesse de descendance pour Abraham n'est pas du tout une récompense d'un succès après une mise en épreuve, parce que c'est ce que l'on croyait, c'est ce qu'on pourrait croire ici dans le texte, qu'Abraham a réussi brillamment son test. Et par conséquent, Dieu lui donnera des descendants comme les étoiles et le sable au bord de la mer. Mais cette promesse a été déjà annoncée dans Genèse 13, quand Dieu avait fait alliance avec Abraham. Donc l'idée d'un test pour une récompense, il faut l'enlever de toute notre réflexion. Ensuite, penser que Dieu demanderait la vie d'Isaac, pour moi, est aussi une aberration. Car rappelons-nous l'histoire, il faut tout lire l'histoire d'Abraham au fait pour comprendre ce texte. L'histoire avec Agar. Abraham a eu un fils avec Agar qui s'appelait Ismaël. Rappelez-vous, Sarah avait demandé à Abraham que Agar et son fils puissent quitter le camp. Alors Dieu écouta la plainte de Sarah de faire chasser Agar avec son fils, parce que c'est Isaac qui est le fils de la promesse, et non Ismaël. Donc avant ce texte, Dieu avait dit, c'est Isaac que j'ai choisi, et c'est lui qui est le fils de la promesse. Donc, dans la tête d'Abraham, il savait déjà que c'est Isaac qui va continuer l'histoire d'Israël. Alors pourquoi Dieu chercherait-il alors la mort d'Isaac? Vous voyez? C'est un peu compliqué. D'où la dernière question. Pourquoi Abraham n'a pas discuté de cet ordre de Dieu? En tenant compte de tout ce que nous venons de dire, Abraham savait pertinemment que c'est en Isaac que la promesse s'accomplira. Il avait la conviction qu'Isaac ne va pas mourir. Et regardez bien le texte tout à l'heure. Nous allons revenir tout à l'heure. Il n'a pas dit « je reviendrai ». Quand on lui dit « mais qu'est-ce que vous allez faire sur la montagne? Où est le sacrifice ?» Nous reviendrons, y compris son fils. Il savait pertinemment qui était son Dieu, même s'il y avait cette question-là. Ce Dieu-là qui ne change pas et qui accomplit toujours sa parole. Et d'ailleurs, il était sûr et certain qu'il reviendra avec son fils vers ses serviteurs. Chers frères et sœurs en Christ, non, Dieu n'est pas un sadique qui s'amuserait sur nos nerfs pour nous tester si nous tenons bon ou pas. C'est un peu l'image qu'on a de Dieu, comme si Dieu jouait avec nous. Allez, je vais voir s'il tient bon ou pas. Quel intérêt de faire cela ? Tout ce que Dieu fait dans la vie de ses serviteurs, il y avait toujours un objectif bien précis. Jamais il fait quelque chose à tâtonnement. Avec Abraham, ce qui se passe ici fut un moment précieux. Pourquoi ? Pour l'Éternel, parce que c'est là qu'il se révélait encore un peu plus à son serviteur. À travers ce moment de pseudo-sacrifice, Dieu a éduqué Abraham qu'il n'est pas comme les autres dieux qu'il connaissait à son époque. Parce qu'il fut un temps, les Mésopotamiens avaient l'habitude d'apporter tous les aînés en offrande à leur divinité. Et ce Dieu-là, c'était le Dieu que Abraham connaissait avant de connaître l'Éternel. Et donc il l'a mis sur le fait. Voilà, je vais te démontrer que je ne suis pas comme les autres dieux qui réclament le sang de leur fils aîné. Mais je vais te rendre ton fils. Et Dieu a substitué son fils avec un animal à côté. Voilà la révélation de Dieu qui se révèle encore à son serviteur. Il n'est pas comme les autres dieux qui demandent des sacrifices. Et là, je m'adresse à nous aujourd'hui, que ce soit au sens propre du terme, ni au sens figuré, pour que nous méritions ces bénédictions. Ça, ce sont les dieux des païens. Si tu arrives à faire ça et ça et ça, je te donnerai ça, n'est-ce pas? Nous qui avons consulté ces dieux-là avant, on nous a promis beaucoup de choses si tu suis tous les critères que ces dieux-là nous ont imposés. Mais ce qu'ils voulaient, c'est de pouvoir transmettre cette valeur-là à son serviteur. Regarde, je t'ai donné des bénédictions sans condition et même la vie de ton enfant, je ne le demande pas. J'aimerais aussi que tu m'aimes comme moi, je t'aime sans attendre quelque chose de ma part. Ça, c'était le but de l'Éternel. M'aimes-tu, dit Jésus à Pierre. Et c'est ce qui fait la grande différence de notre Dieu par rapport aux autres dieux. Pour les autres dieux, c'est du donnant-donnant. Tandis que pour nous, Dieu, il donne. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et regardez bien aussi ce verset dans Matthieu chapitre 5, verset 45. « Ainsi vous deviendrez les fils de votre Père, qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil aussi sur les méchants que sur les bons. Il fait pleuvoir sur ceux qui lui sont fidèles comme sur ceux qui ne le sont pas. » Ça, c'est le Dieu de la Bible. Regarde, il fait beau. Même le soleil, Dieu accorde le soleil aux méchants, entre guillemets. Pas simplement à toi. Voilà la justice de Dieu. Pour que nous soyons comme notre Père, il donne sans un intérêt. Chers amis, ce texte de ce matin nous lance un appel à nous comporter comme étant de vrais enfants de Dieu. C'est-à-dire aimer de tout notre être et de toute notre âme. Et non à l'aimer en se montrant obéissant pour espérer quelque chose en retour. Comme Jacob avait fait, il faisait semblant, il imitait son frère devant son père qui était aveugle pour avoir la bénédiction. La question que je terminerai alors ce matin, sommes-nous des vrais héritiers ou des enfants illégitimes? Amen.